Deutsche Welle. Droits et libertés.
Une émission entièrement consacrée cette semaine aux violations des droits de l'homme au Burundi depuis le début de la crise en avril 2015, avec une invitée, Françoise Hampson. Cette Britannique a enquêté pour les Nations Unies aux côtés du juge Fatsao Gergouz et de la béninoise Reine Alapini Gansou. Je vous propose cette semaine donc un entretien avec cette experte indépendante. Au micro, Sandrine Blanchard. Bonjour à tous. Françoise Hampson, bonjour.
Bonjour.
Vous faites donc partie des experts qui ont été nommés par le président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU fin 2016. Comment s'est déroulé le travail de votre commission, puisque maintenant vous publiez vos conclusions finales?
On a eu une certaine difficulté parce que le gouvernement de Burundi ne nous a pas permis d'entrer dans le pays. On a dû prendre contact avec les gens dans les pays limitrophes et dans d'autres pays, c'est-à-dire des gens en exil, mais également on a pu prendre contact direct avec les gens au Burundi. Mais ça nous aurait arrangé les choses un peu mieux si on aurait eu accès au territoire de Burundi.
Oui, vous avez demandé plusieurs fois aux autorités qu'elles coopèrent, qu'elles vous laissent entrer dans le pays.
Oui, plusieurs fois. Et de plus, on leur a demandé de nous donner des renseignements sur leur point de vue, sur l'état des droits de l'homme au Burundi et surtout sur les attaques menées contre les membres du gouvernement. Mais ils ne nous ont rien envoyé.
Vous aviez très très peu de temps pour enquêter sur une période assez longue et durant laquelle de nombreuses violations des droits de l'homme ont été commises. Comment est-ce que ça s'est passé?
En effet, on a eu très peu de temps parce que ça a mis un certain temps pour mettre en place la commission d'enquête. Mais nous étions 10, c'est-à-dire 3 commissaires et 10 enquêteurs. Et c'est grâce aux enquêteurs qui se sont déplacés et en plus ont eu beaucoup de communications par voie de téléphone. Et on a eu plus de 500 témoignages de gens qui ont été ou victimes ou témoins de ce qui s'est passé au Burundi.
Et sur quelle base juridique avez-vous enquêté? Sur quel type de violations et qui peuvent être ensuite éventuellement poursuivies? Sur quelle base?
Notre mandat nous indiquait qu'on devait voir, étudier l'ampleur des violations des droits de l'homme et voir si ces violations pourraient constituer un crime international, c'est-à-dire dans le contexte du Burundi, si ça pouvait constituer des crimes contre l'humanité. Pour cette raison, nous nous sommes concentrés sur les violations graves, c'est-à-dire les meurtres, les disparitions forcées, tortures et autres traitements inhumains, les cas de viol, les violences sexuelles et les arrestations, les détentions arbitraires. Et notre conclusion, c'est qu'en effet, il y a eu des crimes contre l'humanité commis au Burundi depuis 2015.
Alors, vous le disiez, vous avez pu interroger des témoins. Nous avons pu également joindre l'une des victimes de ces violations qui nous a raconté ce qu'elle a vécu fin 2015 chez elle, alors qu'elle habitait encore au Burundi. Elle a dû quitter le pays depuis. Je vous propose de l'écouter et puis on en reparle après.
D'accord. Quand ils ont fait irruption chez moi, ils ont toqué à la porte.
Bon, j'ai pas voulu les ouvrir.
Je ne voulais pas leur ouvrir. Je les regardais par la fenêtre.
Bon, ils ont dit
qu'ils allaient défoncer la porte. J'ai eu peur et ai donné l'ordre à ma petite fille et à mes nièces de se cacher sous leur lit. J'ai ouvert la porte. Ils sont rentrés. Ils m'ont posé plein de questions sur mon appartenance politique, m'ont demandé quelle somme d'argent je verse au parti, au pouvoir, ma religion, beaucoup, beaucoup de questions. Ils m'ont pris mon téléphone et ont vu des audios de la radio publique africaine et de la radio Isanganiro qui ont été détruites après le putsch manqué de 2015. C'est là qu'ils ont commencé à me frapper, en me disant des choses vraiment horribles. Ils m'ont traîné par terre, m'ont cogné sur le mur, m'ont injurié. Quand ils ont vu que je commençais à saigner, ils m'ont dit « Ne t'inquiète pas, sale garce, nous n'allons pas te tuer, mais nous allons te donner une leçon. » Ils m'ont donné l'ordre de me déshabiller, chose que j'ai refusée. Et ces deux hommes en tenue civile m'ont pris le bras. Ils m'ont jeté encore par terre. Un a pris un couteau et a déchiré la culotte que je portais. Et il a abusé très sauvagement de moi. Le deuxième aussi a abusé de moi. Pendant ce temps, moi, j'ai perdu connaissance. Alors je ne sais pas si les deux autres hommes ont aussi abusé de moi.
Qu'est-ce que vous espérez quand la commission aura présenté ses conclusions comme suite?
La justice burundaise ne peut pas s'y mettre, je le sais, car c'est une justice instrumentalisée. Je demande à la Cour pénale internationale de s'y pencher vraiment.
Alors cette femme nous a raconté qu'elle avait assisté à l'irruption chez elle de plusieurs hommes, dont certains qui portaient des uniformes de la police, d'autres qui étaient en civil mais avec des bottines qui sont celles de la police ou des forces armées. Vous, dans votre rapport, vous parlez aussi de l'implication de la police, des forces de défense nationale burundaises dans des crimes graves.
Également le service national de renseignement. Il y a les trois. Et de plus, il y a une partie du groupe des jeunes du parti au pouvoir, c'est-à-dire l'Imbonerakure. Alors il y a ces quatre éléments dont trois font partie de l'État.
Et vous dites également dans votre rapport que les décisions politiques ne seraient pas prises par le gouvernement, mais par le président directement et ses conseillers proches.
Oui, on a vu à travers les témoignages qu'il y avait presque un système parallèle qu'au système public. C'est-à-dire que, surtout en ce qui concerne les Imbonerakure, ils reçoivent des ordres, des instructions, par l'intermédiaire de certains individus. C'est grâce à ça, à ce système parallèle, que la majorité des crimes sont commis.
Vous avez également recueilli des témoignages sur des attaques qui ont été perpétrées par des groupes armés proches de l'opposition.
On a essayé d'obtenir ce genre de témoignages, mais il y a deux difficultés. D'abord, pour rencontrer les témoins, il faudrait pouvoir aller au Burundi. Et de plus, on a demandé au gouvernement de Burundi de nous donner des renseignements de ce qu'ils ont, eux, là-dessus, mais ils ne nous ont rien envoyé. Alors, on a eu la bonne volonté pour le faire, mais on a eu beaucoup de difficultés.
Et parmi les crimes dont on vous a parlé durant cette enquête, il y a des violations très très graves, hein, des exécutions arbitraires, des disparitions forcées.
Oui, et des viols, comme on a entendu tout à l'heure, et aussi la torture quasi systématique dans des centres de détention et des arrestations arbitraires.
Quelle suite on peut donner alors à ce rapport? Vous rappelez que le Burundi a signé de nombreux instruments internationaux pour lutter contre ce type de violation des droits de l'homme.
En effet, et ça fait maintenant quelque temps que les organes de contrôle des traités des droits de l'homme ont demandé au Burundi de faire toutes sortes de changements. Depuis un certain temps, il ne permet plus aux procédures spéciales d'entrer dans le pays. Mais, par contre, il y a toujours la Cour pénale internationale. Le Burundi a indiqué en 2016 qu'elle voulait se retirer de la juridiction de la Cour et ça aura lieu fin octobre.
En octobre, oui. Alors, comment faire si le Burundi ne fait plus partie du statut de Rome?
Si la Cour commence avant fin octobre, la Cour pourrait continuer. Alors, nous espérons que la Cour pénale, en tout cas le procureur de la Cour pénale, va faire la demande à la Cour d'ouvrir une enquête.
C'est-à-dire qu'il lui reste quelques semaines seulement.
C'est ça. À partir de cette date, il n'y aurait plus de possibilité en ce qui concerne les crimes commis après le mois d'octobre, mais la Cour aurait toujours la juridiction sur les crimes commis pendant que le Burundi était parti au statut de Rome.
Le Parlement burundais vient d'annoncer la mise en place de sa propre commission spéciale composée de 12 députés qui vont être chargés à leur tour d'enquêter sur les informations qui sont contenues dans votre rapport. Est-ce que c'est un premier pas des autorités ou comment réagissez-vous à cette initiative?
Ça dépend de leur indépendance et de la façon dans laquelle ils mènent les enquêtes. Jusqu'ici, quand il y a eu des enquêtes judiciaires, c'est-à-dire ouvertes par un procureur, ça n'a abouti à rien. En ce qui concerne les parlementaires, ça dépend de leur volonté politique. Mais ça pourrait être une bonne chose.
Est-ce que votre rapport risque pas de rester lettre morte?
Ça dépend en partie de la société civile internationale qui pourrait mettre pression sur d'autres États et surtout sur les États africains. Ça dépend de l'Union africaine et ça dépend de la communauté des États de l'Afrique de l'Est.
Et dans vos recommandations finales, et on terminera là-dessus, vous demandez au Conseil des droits de l'homme de prolonger le mandat de votre commission d'enquête pour une durée d'un an. Pourquoi ?
D'abord, à partir de la fin du mois d'octobre, il y a un risque qu'il n'y aurait pas de juridiction qui pourrait se poser des questions sur les crimes contre l'humanité au Burundi. Mais l'autre raison, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de faire une étude aussi profonde qu'on aurait aimé faire et aussi étendue. Il y a toutes sortes de violations, surtout des droits de l'homme, qu'on n'a pas eu le temps de rechercher. Et nous aimerions faire une étude plus approfondie. C'est pas que notre étude n'est pas profonde, parce que quand même il y a eu 500 témoignages, mais ça pourrait être encore plus approfondi et encore plus élargi.
Et quand est-ce que vous aurez la réponse ?
Après la session de la Commission des droits de l'homme au mois de septembre. À la fin, il y aurait des résolutions et nous verrons s'il y a une résolution qui prolonge notre mandat.
Françoise Hamsan, je vous remercie.
Bon, merci beaucoup.
C'est la fin de ce magazine. Merci encore à Françoise Hamsan pour cet entretien. N'hésitez pas à réagir à français@dw.com sans la cédille à français. Salut et à la semaine prochaine.